pa' si pa' dónde vas. Pero esa pinta no puede ser real, tu pelo todo rojo, tu forma de andar. Más raperas que la goma en los pantacas, pana. Más polémicas que la barba de mi hermana. Sacarte invitaba, que vengo con ganas. La sonrisa puesta, las garras afiladas. Comida, familia, normal que de mí no se fíe. Mi papá cruzando los dedos pa' que no la líe. La oveja negra, la extraña, la excéntrica. La que hace menos gracia cuando te replica. Cuando incomoda no mola ya, chica. Si sabes que soy rarita, ¿pa' qué me invitas? Lo traigo fresco, toma pa' que te piques. Yo dejo pasar la azotea con mis chiques. Conmigo no cuentes, chame de comer aparte. No me aplauden, me están tocando las palmas pa' que cante. Cualquier rechista, cerveza sin limón. En la fiesta no mixta de colocón. Las desheredadas primas, síguenos la pista. Esto es Lebo Kiki, rap trans feminista.
Yulere, yulere, yulera. Yo no soy un florero más. Yulere, yulere, yulere. Ser referente sea.
De formación o bebiendo ron. Sexo, dramas, conciertos y poliamor.
Poliamor.
No tengo tiempo pa' tanta gestión. Estoy deconstruyendo lo de la autodestrucción. Dando palmas y cantando con acento acharnegado. En la calle, en la vaina, en el parque de al lado. El polito impoluto, el pelo siempre despeinado. No cruzo las piernas al sentarme y se me corre el maquillaje. Cada verano más pereza depilarme. Lo siento, mamá, nunca seré doctorada.
On nous dit, le bonheur c'est le progrès, faites un pas en avant. Et c'est le progrès, mais ce n'est jamais le bonheur. Alors si on faisait un pas de côté, si on essayait autre chose.
C'est la première fois qu'on fait grève et puis ce sera la dernière, parce que celle-là on va la gagner.
Ouais, pour arrêter de se faire exploiter, là, faut essayer.
Ont fait, ont donné de leur sueur, donné de leur santé, ou même souvent de leur vie, pour faire faire des bénéfices à une entreprise. Et que quand vous avez des actionnaires qui prennent cet argent, qui se le mettent dans les fous, vous comprenez? On est dans un système pourri.
Ce que le gouvernement est en train de faire, c'est une catastrophe sans nom. On est en train d'écraser la liberté d'expression, on est en train d'écraser les droits, les libertés des salariés, et tout ça, ça cache en réalité la casse du code du travail qui arrive avec Macron, et tout ça sous couvert de l'ultralibéralisme et du travail pour tous. Je pense qu'à un moment donné, il va forcément se passer quelque chose parce que les gens vont pas pouvoir continuer à s'écraser.
Qu'est-ce que tu fais?
La révolution!
Démobilisation générale, 8e exercice préliminaire. Aujourd'hui, à l'heure dite, on s'arrête, on se parle. Comment tu l'as su, toi?
J'ai entendu au poste.
Bah oui, moi j'ai toujours entendu annoncer les exercices préliminaires à la radio.
Alors, les types de la radio sont avec nous?
C'est pas qu'ils sont avec nous, c'est qu'on est partout.
Tiens, une info.
Moi, je trouve qu'il y en a un petit peu marre des préliminaires.
Ben allons-y, arrêtons tout pour demain.
C'est la nuit, dans mon lit, les 11h, mal au cœur, déjeuner, mon café, la radio, trop c'est trop, les midis, les parents.
Bonsoir. Vous écoutez Radio Canu sur le 102.2 et on est le Canu Info du lundi.
Et on commence tout de suite par les titres avec un premier sujet à l'international sur l'anniversaire de la contestation à Hong Kong. Ça fait désormais 6 mois que les Hongkongais s'opposent à leur gouvernement et depuis le projet de loi d'extradition. Ensuite, on passera au national avec des nouvelles sur la situation au CRA, au CRA de plaisir. Puis on passera à l'ouverture d'un centre ça sera au local du coup. Petite erreur dans le conducteur. Donc ensuite on enchaînera sur la mobilisation contre la réforme des retraites. On va beaucoup en parler aujourd'hui. Alors déjà on va revenir donc sur le 5 décembre et les actions qui ont eu lieu ces derniers jours. Puis on passera une petite série de débunkages sur le contenu de la réforme et les arguments qu'on peut entendre dans les médias, pour ensuite passer au local avec plusieurs reportages. Donc un premier reportage sur le blocage du lycée Ampère aujourd'hui. Ouais. Puis sur le piquet des cheminots, une petite prise de son donc sur le piquet des cheminots, contenu les cheminots aujourd'hui. Et on finira sur la situation, enfin sur ce qui s'est passé aujourd'hui à l'université Lyon 2, et notamment le déblocage de la fac avec la présidence qui a encore une fois fait appel à la police. Et pour terminer cette émission, on vous passera un petit reportage compilé par des camarades sur une réunion féministe qui s'est tenue cet été au Chiapas. Et on vous en parlera plus en détail tout à l'heure.
Voilà, tout à fait. Donc on commence avec l'international, notre seul sujet international aujourd'hui, puisqu'on va beaucoup parler de la grève en France. Et donc à l'international, on parle de Hong Kong, puisque hier, alors qu'à Lyon se tenait la fête des Lumières, à Hong Kong, on fêtait les 6 mois de la mobilisation. Une énorme manifestation qui n'a pas atteint, bien sûr, les 2 millions du 16 juin dernier, mais qui a à peine faibli, surtout au vu de la durée du mouvement. 800 000 manifestants étaient dans les rues, selon les organisateurs. On vous avait parlé il y a 2 ou 3 semaines des élections locales qui ont été largement remportées par les opposants de Pékin. Mais pour rappel, cette victoire est surtout symbolique puisqu'elle ne confère pas vraiment de pouvoir à ses élus. Son intérêt a surtout été de prouver qu'il n'existe pas de majorité silencieuse qui soutiendrait Carrie Lam et Pékin. Cette manifestation avait été autorisée mais a fait l'objet d'opérations de prévention, c'est-à-dire que quelques heures avant la manifestation, plusieurs personnes ont été arrêtées et la police clame avoir saisi des armes. Pour l'anniversaire du mouvement, c'est l'occasion de faire les comptes. 5800 personnes ont été arrêtées et plus de 10 000 gaz lacrymogènes ont été tirés. De quoi rappeler une des revendications qui fait consensus dans le mouvement, celle de la création d'une commission indépendante pour enquêter sur les violences policières, ce que refuse catégoriquement le gouvernement. Le mouvement, qui a déjà décroché l'abandon du projet de réforme de loi d'extradition, peine à obtenir gain de cause sur ses autres revendications. Les manifestants, se plaignent que le gouvernement ne les écoute ni quand ils manifestent pacifiquement, ni quand ils remportent des élections. Et ça, c'est vu lors de l'occupation de l'université de Polytechnique, puisque clairement, le pacifisme, il y en a qui n'y croient plus. Et certains d'entre eux lancent maintenant des appels à souscrire massivement à un syndicat pour organiser une vraie grève, affaire à suivre. Et puis en attendant, on va retourner en France.
Oui, tout de suite, on passe au national avec des nouvelles du centre de rétention de Plaisir.
Voilà, donc le centre de rétention de Plaisir qui porte très mal son nom, c'est une prison pour sans-papiers dans le 78. Qui est situé à l'intérieur même d'un commissariat. On vous en avait parlé, mais fin septembre, il y avait eu une grève de la faim des incarcérés à l'intérieur de ce centre de rétention pour lutter contre l'interdiction de visite qui avait été faite arbitrairement. Depuis cette grève de la faim, il y a eu beaucoup de répression. Les grévistes ont été déplacés de centre de rétention pour casser la grève. Et depuis, les conditions n'ont pas changé. Et récemment, il y a un témoignage d'un prisonnier qui a tenu à faire sortir ce qui se passe en ce moment. Et donc, je vais vous lire des extraits de ce témoignage. Depuis le début, il joue avec mes nerfs. Je me suis tapé contre le mur et je me suis fracturé le bras. C'était lent pour que l'ambulance vienne. Je suis parti à l'hôpital et ils m'ont fait un plâtre. Après 4 jours seulement, j'avais un rendez-vous avec le chirurgien. Ensuite, il raconte qu'il est descendu comme d'habitude pour prendre ses médicaments, mais que là, il est tombé sur plusieurs policiers qui, à ce moment-là, lui ont annoncé qu'il avait un vol caché. Un vol caché, c'est quand on annonce au dernier moment à quelqu'un qu'il va être expulsé et qu'il faut maintenant qu'il prenne l'avion. Et là, il dit « J'étais choqué, j'ai vomi, j'avais envie de me suicider, j'étais mal, mal, mal. » Et il dit que quand il a vomissé, il a demandé à avoir un sac, ce que les policiers ont d'abord refusé et puis ensuite ils lui ont donné un sac percé. À l'aéroport, j'ai refusé le vol. Du coup, je suis retournée au centre. J'étais à bout, ils m'ont attachée dans une chambre avec mon plâtre. Après 1 heure, ils m'ont relâchée et ils m'ont mis le casque. Et donc, comme il avait refusé son vol, il a fini par retourner au centre de rétention et il précise qu'en rentrant, ils m'ont forcé à nettoyer de force ce que j'avais vomi dans la voiture.
Voilà, donc un témoignage assez dur et non sans lien avec les problématiques migratoires et la question suivant de la politique répressive du gouvernement, surtout en hiver avec ce problème de logement. On va vous parler de l'ouverture d'un centre communal
à la
Guillotière.
Peut-être que du coup on va le faire au local.
Oui, c'est vrai, on va le faire au local peut-être.
Est-ce que du coup on enchaîne avec la grève en cours et les manifestations en France ?
Oui, alors, comme vous avez dû vous le constater vous-même, je pense que je ne vais pas vous apprendre tellement de choses aujourd'hui. Jeudi 5 décembre, donc, a été le premier jour de mobilisation contre la réforme des retraites, et un jour de mobilisation massive. Donc des blocages de zones industrielles, de périphériques ou d'autoroutes dans de nombreuses villes. On a vu aussi de nombreux lycées et de facs bloqués. Et puis surtout, 806 000 manifestants dans toute la France selon le ministère de l'Intérieur et 1,5 million d'après la CGT. On a pu voir de nombreux affrontements dans différentes villes, le 5 mais aussi les jours qui ont suivi, avec donc l'appel à une grève reconductible à Nantes, où une pluie de chaises s'est abattue sur les CRS, ou encore à Paris, où malgré l'énorme dispositif répressif, les flics ont systématiquement fait face à des gens leur tenant tête. On a aussi vu plusieurs cas de violence policière, un manifestant lynché au sol à Paris par les braves, donc les fameux voltigeurs, renommés brigades de répression de l'action violente, ou encore cette vidéo incroyable, tellement elle illustre la manière dont les flics sont en total roue libre et partagent un sentiment d'impunité. C'est à 17h30, donc le jeudi 5 au Havre, des policiers qui gazent alors copieusement des gilets jaunes pour lever un blocage. Plusieurs témoins filment la scène. Et alors, des policiers cherchent alors des LBD, des cartouches de LBD qu'ils auraient tirées. Et le chef d'escadron de gendarmerie qui passe à côté des gens qui filment et qui a le mégaphone pour les sommations remarque ces personnes, notamment quand l'une d'elles déclare « mais ils n'assument pas d'avoir tiré ». Et se jette sur les deux personnes qui s'enferment dans leur voiture. Et là, on voit sur la vidéo très clairement les gendarmes explosaient la vitre et tiraient de force les personnes. Les deux compères vont faire 24 heures de garde à vue et aucune charge ne sera retenue contre eux car ils n'avaient absolument rien fait. Bref, aujourd'hui, la grève se poursuivait toujours, notamment à la SNCF et à la RATP. On a aussi encore vu des actions de blocage, qui est quand même la meilleure manière d'impacter l'économie. Et Dieu sait qu'il y en a eu beaucoup de ces actions. Donc au sud de Nantes, au niveau de l'entrée de l'aéroport, gros bouchon. Et à l'est, près de la gare, blocage de la gare par les cheminots. À Lille, multiples blocages de lycéens. À Rouen, le marché d'intérêt national a été bloqué et l'électricité coupée. À Montpellier, c'est un dépôt pétrolier qui a été paralysé. À Dijon également. Dans 93, les grévistes d'EDF ont coupé le courant dans la préfecture et dans certains commissariats. Et enfin à Paris, en plus de la grève massive dans les transports, les dépôts de bus ont été bloqués par les grévistes, empêchant donc leurs collègues non grévistes de travailler. Résultat, 620 km de bouchons, un record absolu dans l'agglomération. Alors, une mobilisation massive et aussi largement soutenue qui inquiète fortement l'exécutif et les élites politiques, médiatiques et économiques, à tel point que les médias dominants, BFM, Le Monde, Figaro, CNews, France Télévisions, etc., ont formé un véritable corps de bataille contre les syndicats et les grévistes. On est passé par absolument tous les poncifs habituels du traitement médiatique des grands mouvements de grève. Focalisation totale sur les perturbations et la gêne causées aux usagers, traitement quasiment inexistant des causes de la grève et du fond de la réforme, aucune parole des grévistes recueillis, mais une omniprésence des politiques de la majorité présidentielle rabâchant toujours les mêmes éléments de langage, ou encore des experts en tout genre expliquant la nécessité et le bien fondé de la réforme face à l'irrationalité des grévistes, ou pour finir, la focalisation sur le dispositif policier et sur les affrontements dans les manifestations. Bref, une couverture médiatique s'apparentant purement et simplement à de la propagande pro-gouvernementale. Pour vous donner un petit exemple concret, tout à l'heure, je passe sur mon fil Facebook et là, je tombe sur une publication de la page France Info où on pouvait lire « En ce cinquième jour de grève, près d'un tiers des dépôts de bus RATP ont été bloqués par des grévistes, impactant le trafic prévu. » La veille, à la gare Colombes, un chauffeur de tramway non gréviste a été violemment insulté par des grévistes qui bloquaient les voies alors qu'il déblayait le passage. Approuvez-vous les actions des grévistes envers ceux qui choisissent de ne pas faire grève? Bon, là on voit, il n'y a pas de parti pris du tout dans cette question, et puis elle n'est pas du tout orientée. Non, évidemment, le but c'est pas du tout que les gens se positionnent contre les grévistes, voyons. Bon bref, voilà, on voit le niveau de propagande. Et je vous invite d'ailleurs à aller sur le site de ACRIMED, donc Action Critique Média, voir leur revue des journaux télévisés de France 2 du 1er au 4 décembre, c'est assez révélateur du rôle de relais du pouvoir que tiennent les médias. Bon, et maintenant, contre la langue de bois gouvernementale et médiatique, on va faire appel à nos politiques bon, qu'on apprécie comme ça, mais au moins qui a le mérite de dire les choses directement.
Voilà, en tout cas, c'est ça. On va écouter ce que disait François Fillon en 2016 sur le principe de la retraite. Point.
Des choses. Il y a trop d'hommes politiques qui jouent avec l'affaire des retraites et qui font miroiter des réformes formidables. Alors, par exemple, ce qu'on appelle les retraites par points. Bon. Le système de retraite par points, j'y suis favorable, mais il ne faut pas faire croire aux Français que ça va régler le problème des retraites. Le système par points, en réalité, ça permet une chose qu'aucun homme politique n'avoue. Ça permet de baisser chaque année le montant des points, la valeur des points, et donc de diminuer le niveau des pensions.
Voilà. Voilà, c'était une déclaration assez honnête de François Fillon, qu'on peut pas accuser de faire dans la langue de bois. Tout le contraire du gouvernement, qui assure vouloir sauver le système de retraite actuel. Alors pourtant, comme je le disais la semaine dernière, je vous avais déjà énuméré une petite liste de contre-arguments aux éléments de langage du gouvernement. Eh ben, le système des retraites, il est loin d'être au bord de la faillite, comme le présentent les experts. Experts qui ne sont en fait que des idéologues impliqués eux-mêmes dans des grandes entreprises. Bon, ça, on y viendra. Donc non, il n'est pas du tout en faillite. 5,4 milliards d'euros. C'est la dette de la sécurité sociale, qui, rappelons-le, comporte quatre branches. Maladie, accident du travail et maladie professionnelle, famille et retraite. Mais le petit bémol avec ce chiffre donc de 5,4 milliards, c'est que les experts qui l'assènent à longueur de temps ne le rapportent jamais en fait au budget total de la sécurité sociale, pardon, oui, des retraites, quoi. Pardon, c'est 440 milliards d'euros. Ça fait vraiment relativiser, parce qu'un déficit de 5,4 milliards sur un total de 440 milliards de budget, c'est dramatique comme un découvert de quelques dizaines d'euros si vous gagnez 2000 euros par mois. Voilà, quoi. Dans son dernier rapport, d'ailleurs, le comité d'orientation des retraites montre qu'en fait, il n'y a rien d'alarmant pour la branche retraite de la sécurité sociale. Ce qui a dégradé son équilibre ces derniers mois, ce sont des décisions politiques assez récentes. Moins d'emplois publics avec l'austérité a fait perdre des recettes au régime, puisque le public cotise davantage que le privé. Et surtout, les exonérations des heures supplémentaires par Macron ont réduit la somme de cotisations finançant notre système. Ainsi, le déficit a été artificiellement gonflé par Macron et le gouvernement. Par extension, comme nous le montre l'intervention de notre copain Fillon, l'objectif de la réforme n'est pas de sauver le système par répartition, comme l'affirme le gouvernement, mais bien de mettre en place un système de retraite par capitalisation, très profitable pour les banques et les assurances. Donc par capitalisation, ça veut dire accumuler pendant plusieurs années, épargner pendant plusieurs années. Bon, enfin, je reviendrai en détail dessus. Comme nous l'a montré donc, les trois années qu'il a occupé au pouvoir, l'objectif de Macron, c'est tout renverser. C'est le liquidateur, le messie de la finance et de la bourgeoisie, celui qui doit enfin mettre en place les réformes structurelles nécessaires, celui qui doit imposer l'agenda néolibéral au pays par la force s'il le faut, celui qui doit étendre le plus possible la marchandisation de nos existences. Bref, le président de la finance, des bourgeois et des grandes entreprises. Ainsi, la retraite par capitalisation, donc c'est-à-dire l'accumulation individuelle tout au long de sa vie professionnelle d'un stock de capital qui va ensuite financer des futures pensions, à la place donc de la répartition, donc c'est-à-dire le financement par toutes et tous de la retraite de tout le monde, fait partie intégrante de ce projet néolibéral. De la sorte, un an avant sa réforme des retraites, le gouvernement a donc légiféré discrètement au travers de quelques articles de la loi Pacte, qui à la base une loi plutôt axée sur les privatisations, donc des articles qui simplifient la législation des fonds de capitalisation, ce qui permet de développer le secteur et a fait immédiatement le lien entre ces deux réformes. En mai 2018, Jean-Paul Delevoye, donc le concepteur de l'actuelle réforme des retraites, expliquait réfléchir à obliger certains citoyens à basculer vers la capitalisation. Je le cite, il disait « La question se pose pour les plus gros salaires qui excéderaient un certain plafond, au-dessus de 120 000 euros de revenus, 160 000 au plus, ce qui doit encore être arbitré. Alors, ce qui veut dire, en gros, le gouvernement cherche à ce que les riches et les personnes aisées puissent arrêter, avec leur bénédiction, d'être solidaires au régime général, qui deviendrait en fait une caisse de cotisation pour les bas et moyens revenus. Alors c'est la même logique que pour les hôpitaux en fait. On laisse lentement se dégrader les hôpitaux publics, pendant que les riches profitent du développement des cliniques privées. En tout cas, les professionnels du secteur des assurances, hein, eux, ils s'y trompent pas. Ainsi, Olivier Marié, s'en félicite de cette réforme et des mesures qui avaient été prises pendant le pacte. Ainsi, Olivier Marié, directeur des ventes et de la distribution d'AXA France, donc un des principales entreprises d'assurance, a déclaré au quotidien Les Échos au sujet de la loi Pacte : le gouvernement a mis de la lumière au bout du tunnel. Voilà. Donc des mesures et une satisfaction du marché de l'assurance qui sont encore plus signifiantes, hein, maintenant que l'on sait que Jean-Paul Delevoye aurait oublié de préciser dans sa déclaration d'intérêt, hein, publiée samedi 7 décembre sur le site de la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique, qu'il était également administrateur de l'Institut de Formation de la Profession Assurance depuis 2016. C'est-à-dire le principal institut de formation des assureurs, et monsieur déclare tout de même ne pas y avoir pensé. Hein. Bah, oui, hein. Le pauvre, il doit tellement occuper tellement de sièges dans des conseils d'administration, bah forcément t'en oublies certains au bout d'un moment. Hein. Moi je comprends. Non mais plus sérieusement, après Pénicaud, après Alexis Kohler, Richard Ferrand, et d'autres encore, enfin encore une affaire en fait de conflit d'intérêts au gouvernement. Hein. Bon, de quoi définitivement enlever tout doute sur quels intérêts sert le pouvoir et surtout quels intérêts sert cette réforme. Donc demain, nouvelle grosse journée de mobilisation, hein, alors que le gouvernement doit annoncer le contenu définitif de la réforme. Hein, on s'attend évidemment à ce qu'il en atténue le contenu afin de faire semblant d'avoir écouté la rue. Mais ne soyons pas dupes, hein. Et n'oublions pas que ce qui joue dans ce mouvement, ce n'est pas seulement de faire l'abandon de cette réforme, mais c'est aussi d'enfin faire plier ce gouvernement autoritaire, dire stop pour de bon à la dégradation de nos existences et pouvoir entamer la longue reconquête de la maîtrise de notre avenir collectif face au capitalisme.
Tout à fait. Et donc on passe au local maintenant pour parler de ce qui s'est passé aujourd'hui à Lyon. Et tout d'abord, aujourd'hui à Lyon, les lycées Juliette, Récamier et Ampère étaient bloqués avec succès. Et on a un petit reportage de devant le lycée Ampère-Saxe. C'est devant ce lycée qu'un étudiant lycéen a été touché par un tir de LBD vendredi dernier lors d'un premier blocage qui avait été voté par près de 80% des participants à l'AG des lycéens. Il y a un récit qui vaut le coup d'être lu sur ce blocage, ce rébellion. Et on en reparle un peu dans le petit reportage qu'on va écouter tout de suite, qui a été enregistré donc ce matin par un copain du Canu Info du vendredi. Bonne écoute et à tout de suite.
Radio Canu, blocage.
Bah là on est au lycée Ampère-Saxe. Ce matin moi j'étais là vers un peu avant 8h et puis on a bloqué le lycée.
On a pris des poubelles, on a mis des grèches devant, on a mis des panneaux, on a mis blocage pacifique. Et on est devant, il y a aussi des gens en train d'écouter de la musique, en train de s'ambiancer. D'autres qui partent chez eux, qui sont contents qu'il n'y a pas cours.
Ce qui se passe, bah, c'est que les élèves ne sont pas d'accord avec les réformes, avec... la police qui lâche des flashballs, des LBD sur des lycéens. Il y a des lycéens qui ont été gravement blessés, emmenés aux urgences. Et puis, on essaye de manifester.
Il y a un CRS qui a tiré une flashball sur un de nos camarades, malheureusement. Et ça a touché sa joue, ça fait une grosse trace. Et oui, j'étais là. Il y avait 10 mètres entre le CRS et la personne. Après, ça a touché la personne. Et c'est là que les CRS sont venus, ils ont gazé plein de gens, comme ça, devant le lycée. Ils ont jeté aussi des lacrymogènes. Et moi, je les prenais, je les jetais vers eux pour pas que ça nous touche, moi et les autres.
Si tu te prends ça dans la tête, c'est que c'est voulu. C'est qu'il y a eu, il s'est passé quelque chose pour que la balle elle soit à ce niveau-là. Parce que normalement, ils sont censés tirer en bas. Donc pour moi, il y a un problème. En fait, moi, je trouve que parfois, les policiers, ils attendent le moindre petit truc pour déballer tout ce qu'ils ont. À la fin, il y en a qui se prennent des trucs alors qu'ils n'ont rien demandé et qu'ils n'ont rien fait. En fait, il y a toujours de la haine au fond de nous. Moi, j'oublie pas, par exemple. Je veux dire, en gros, il n'y a pas de justification. Mais les gens, ils vont se dire, en fait, ils vont penser à tout ce qu'ils ont eu. Par exemple, les gens qui jettent des pierres, c'est des personnes qui n'ont pas vraiment de moyens d'être comme ça. La police, ils sont toujours dans une étiquette de, ouais, on s'attaque aux plus faibles. Donc forcément, les plus faibles, ils se défendent comme ça.
Donc ouais, manifester, défendre des droits, des idées et tout, je suis d'accord. Mais d'un côté, il y a aussi notre bac cette année. Il y a la réforme du bac. Déjà, on a eu du mal à nous l'expliquer. Et maintenant, il n'y en a qu'un seul, et c'est avec des options. Et c'est pour nous mélanger, c'est pour varier, mais moi, j'y crois pas. C'est plus, on va dire, question de budget, restrictions et tout ça. Moi, je suis en seconde. J'ai redoublé ma seconde, mais ça affecte ma scolarité dans le sens où déjà, tout change. Les profs, ils savent pas trop, on va dire, sur quoi ils se lancent. Ils sont un peu à l'aveugle aussi. On n'est pas seuls. Donc je pense que c'est pour ça qu'en France, il y a beaucoup de mouvements. Et puis on va dire qu'on n'est pas les seuls à se révolter. Il y a beaucoup de choses. Depuis un an, il y a les gilets jaunes, il y a les grèves nationales, il y a les élèves. Ça veut dire que ce n'est pas seulement, on va dire, le système scolaire qui flanche, c'est tout le système en lui-même.
On va essayer de partir vers l'entrée du travail. On va tous faire ensemble la main. Mais il faut vraiment commencer par le
Voilà pour ce petit reportage. On va continuer avec ce qui s'est passé à Lyon aujourd'hui. Et par contre, le blocage de l'université Lyon 2 n'a pas eu lieu car la présidence avait appelé les flics. L'entrée dans l'université s'est faite par contrôle des cartes d'étudiants, comme ça devient une habitude maintenant à chaque menace de blocage, ce qui a engendré de nombreuses tensions, des professeurs énervés parce qu'on leur refusait l'entrée et un agent de sécurité qui va jusqu'à sortir un couteau. Pour rappel, récemment et dans des conditions similaires, la présidence a livré une étudiante à la police parce qu'elle insistait pour aller en cours sans avoir sa carte d'identité sur elle. Incroyable pour une présidence qui, on ne se lasse pas de le rappeler, avait fait campagne sur son indignation face à la présence policière sur le campus et sous la présidence précédente. Aujourd'hui, plusieurs personnes ont été arrêtées sur le campus par les forces de l'ordre, mais il faut savoir que quand ce n'est pas la police, ce sont des vigiles qui s'en prennent aux étudiants. C'est en effet devenu monnaie courante que l'université fasse appel à des sociétés privées pour contrôler ces étudiants qui ne sont pas assez obéissants. Et à ce sujet, pour essayer de se refaire une image de gauchiste, pour essayer de justifier toutes ces mesures autoritaires de répression des luttes, la présence de la police sur le campus et l'emploi de vigiles pour cadenasser la fac, la présidence a sorti une pétition par le biais d'enseignants, chercheurs et de doctorants. Une pétition qui est un peu floue, on ne sait pas vraiment ce qu'elle demande ni à qui elle le demande. Et finalement, elle ressemble plutôt à une lettre publique, bien plus qu'à une pétition. On y lit que l'université subit des attaques intolérables, comprendre les tags des tentatives de blocage et d'occupation. Même si quand même ceux qui ont créé la pétition, qui n'en est pas vraiment une, disent comprendre, je vous cite, la mobilisation et les réactions un peu vives d'une partie des étudiants et étudiantes. En gros, ils appellent au calme. La présidence a aussi communiqué par mail avec les étudiants et le personnel de l'université pour préciser que l'intervention de la police, sobrement nommée réquisition, on n'y lit jamais ni police ni CRS, que cette réquisition donc se fait à contre-cœur et que bien sûr les étudiants se trompent de cible, qu'ils devraient plutôt saisir l'opportunité de sortir de la misère que leur offre l'université plutôt que de la bloquer. Quelque chose qui est difficile à entendre après l'immolation par le feu d'un étudiant il y a quelques semaines.
Voilà, oui, et faut pas oublier que encore aujourd'hui, la présidence a fait appel à la sécurité privée et elle le fait de plus en plus, de telle sorte que elle a voulu empêcher en fait la bonne tenue de l'Assemblée générale en empêchant toutes les personnes extérieures à l'université, mais même des enseignants, d'accéder à l'enceinte, donc en faisant recours à de la sécurité privée. Sécurité qui n'a pas hésité à se montrer assez violente envers les étudiants mobilisés, en en frappant certains et surtout en les menaçant, en les insultant. Ce à quoi la présidence a répondu en disant on n'a rien vu, on n'a rien entendu. Voilà. Maintenant, on va passer à un petit sujet, enfin un petit reportage sur le piquet de grève contenu, les cheminots ce matin à la gare
de Perrache. C'est ça, donc fraîchement enregistré de ce matin.
Roulant contrôleur de Lyon-Perrache, donc sur le piquet qu'on tient maintenant tous les jours depuis le 5. Moi je suis contrôleur ici, depuis 6h ce matin, comme tous les matins, on tient le piquet jusqu'à ce qu'on réussisse à gagner ou à arracher quoi que ce soit, tu vois, on lâchera pas pour l'instant en tout cas.
Radio Canu, sur le piquet.
Ça fait 38 ans que je suis dans l'entreprise. Par rapport à ce qui s'est déjà passé, moi j'ai vécu 95 par exemple. J'ai vécu la grève de 95. Il y a eu un gros blocage pendant 22-23 jours. On était à la base moins nombreux qu'aujourd'hui. C'est ce qui donne l'espoir de dire qu'on va, on va pouvoir gagner. Le gouvernement ne tiendra pas 3 semaines comme ça, c'est impossible.
On n'est pas en grève par amusement ou par, entre guillemets, feignantise cheminote réputée, tu vois. Donc la grève, c'est pas dans son canapé. C'est sur le site et ça nous permet de rencontrer aussi bien tu vois, des collègues qui, eux, n'ont peut-être pas encore rejoint le mouvement ou hésitent ou des choses comme ça, ou aussi bien des usagers qui ont des doutes ou des petits flous quant au combat qu'on mène, tu vois. Donc c'est important d'être présent.
Ce matin, on en est à un gros blocage au niveau national. On est fort aujourd'hui avec cette grève. On arrive bien à mobiliser. On a quasi 90% encore de grévistes aujourd'hui. Ça bloque toute la France. On espère que ça va continuer comme ça. Et le gouvernement, avec tout ce bordel qu'il y a, sera obligé de céder. Nous, c'est le retrait total du projet de réforme. Ce n'est pas des mesurettes pour dire je fais plaisir à l'un et puis l'autre. Ben tant pis pour lui, ça sera le retrait total. En tout cas, avec un blocage comme on a là, c'est la solution pour faire plier le gouvernement. Là, on a vraiment quelque chose. L'année dernière, on avait eu un mouvement de grève qui s'était un petit peu étalé sur 3 semaines. On n'a pas eu cette mobilisation. Il ne faut pas le perdre, il faut le mener jusqu'au bout. On n'a pas le choix, en fait. Hein.
Moi, ça va être 2020, ma 6e année de boulot. Et les mecs de notre génération, même si on n'est pas là depuis longtemps, et on paraît déjà aigri comme des anciens, tu sais. En fait, tous les 6 mois, on a l'impression qu'on perd quelque chose et on le ressent en direct. Tu vois, c'est pas des craintes sur l'avenir, c'est du direct. C'est-à-dire que tous les 6 mois, on perd des lignes, on perd de la charge de travail, on perd plein de choses, tu vois. On voit des collègues pour un rien recevoir des demandes d'explications, friser la correctionnelle, entre guillemets. Donc, on le ressent en réel. Souvent, tu vois, et de plus en plus souvent d'ailleurs. Donc c'est bien qu'on se mobilise. Après, chez les cheminots, faut être clair, c'est historiquement une entreprise, tu vois, qui connaît la lutte, qui sait l'organiser. Donc c'est ça qui rend ça plus facile pour nous. Parce que les mecs de nos générations, on n'est pas tous aptes à tenir des piquets, à mobiliser, à manifester, à tout ça. Donc c'est vrai que nous, on est entourés par des grosses organisations syndicales qui font que c'est simple. Après, nous, on se réjouit de l'Interpro. Parce que en termes de nombre, en termes de coordination et tout, c'est important. Et là, on voit que le 5, on était très nombreux. On pressent tous que mardi, ça va être encore plus. Ça nous met du baume au cœur et c'est important pour tout le monde, je pense. Tous les jours, nous, l'organisation se fait donc sur le site, donc là où on tient le piquet. Donc les AG, pareil. Les AG de site sont tous les matins aux alentours de 9-10 heures. Les AG collaboratifs, chacun peut prendre la parole.
Les grévistes, ils sont maîtres de leur grève. On met au vote la reconduction, ou pas, hein, après tout, voilà. On met au vote aussi les actions qui sont menées, on met au vote un tas de choses. Oui, c'est pour, on continue, c'est contre, on arrête. L'AG est souveraine, on n'a pas à imposer, entre parenthèses, quoi que ce soit.
Chez nous, c'est principalement CGT Sudrail, parce que c'est les plus représentatifs aussi. Donc c'est pour ça qu'ils sont là et c'est eux qui nous guident dans les discussions nationales, on va dire, tu vois, ceux qui font redescendre les infos. C'est appréciable pour nous d'avoir du concret sur les discussions. Ça te permet d'y voir un peu plus clair. On essaye de faire passer le mot, de souvent être présent sur les AG, d'écouter, de prendre la parole, parce que chacun peut le faire. Que tu aies des couleurs ou pas, c'est important et c'est même primordial.
Il faut bien penser que cette grève pour les retraites concerne tout le monde. Là, le cadeau de Noël cette année qu'on peut faire à nos enfants et à nos petits-enfants, ça sera de leur assurer une vraie retraite. Ça sera le sous-sapin, ça sera « j'ai gagné ta retraite ». Ça m'a coûté tant, mais j'ai gagné ta retraite. Ça fera peut-être un cadeau de moins, de toute façon ils en ont assez, mais c'est pas grave.
Voilà pour ce reportage et on va continuer en vous lisant un communiqué qui annonce l'ouverture d'un centre communal à la Guillotière.
Alors, chers voisins et voisines, vous avez sans doute remarqué que depuis quelques semaines, un bâtiment du cœur de la Guillotière semble, après des années d'abandon, reprendre vie. Ce lieu, c'est l'espace communal de la Guillotière, plusieurs centaines de mètres carrés que nous aimerions dédier à la vie du quartier, ses habitants et habitantes et leurs besoins. Nous autres, habitants, habitantes et habitués de la Guillotière, avons réquisitionné l'ancienne entreprise des cours, vide depuis plusieurs années. Nous souhaitons, par cette occupation, participer à l'enrayement d'un processus à l'œuvre dans le quartier. Le remplacement d'une population modeste par une population plus aisée, qui se traduit notamment par la destruction d'immeubles à loyer bas et leur remplacement par des résidences onéreuses et sécurisées, par la disparition des petits commerces et l'installation en leur place de grandes enseignes, concept store en tout genre ou bar branché et hors de prix, mais aussi par un renforcement des dispositifs sécuritaires, vidéosurveillance, mobilier anti-SDF, harcèlement policier, visant à décourager les plus démunis de rester. Face à cette politique de la ville, nous souhaitons organiser concrètement la solidarité entre voisins et voisines du quartier, en dehors des rapports marchands et pour se réapproprier notre quartier. Isolés, nous subissons ces politiques qui nous chassent de la Guillotière. Se voir, s'entraider, s'organiser, mettre en commun est pour nous une manière de résister. Cet espace aura ainsi pour vocation d'être un lieu d'activité sportive et culturelle, d'entraide et de convivialité, répondant gratuitement aux premières nécessités de chacun et chacune. Vous pourrez ainsi venir y faire votre lessive, consulter Internet, repriser vos vêtements, exercer votre corps, enrichir votre esprit, assister à des projections, jouer de la musique, partager un thé ou un café, ou encore proposer et animer vos activités favorites. Des permanences d'accueil et d'entraide à destination des personnes rencontrant des difficultés administratives, sociales ou juridiques seront également proposées. Venez nous rencontrer à l'espace communal de la Guillotière, au 45 rue Béchevelin, le 15 décembre 2019 à partir de 11h, afin de découvrir ce joli lieu, manger un bout et nous faire part de vos envies.
Voilà, et on va terminer notre émission avec un petit documentaire sur la deuxième rencontre nationale des femmes du Congrès national indigène qui a eu lieu cet été au Mexique et où s'est rendue une membre du Canu Info du lundi. Le reportage ne sera pas diffusé ici dans son intégralité parce qu'on n'a pas le temps, mais vous pourrez l'entendre dans son intégralité. Dans l'émission féministe Langue de Fronde qui est diffusée sur Fréquence Paris Pluriel et on mettra un lien sur leur blog où il y a le podcast dans notre propre article de blog en fait. Nous voilà avec quelques musiciennes et chanteuses de fandango sur la place centrale du village de San Juan Volador au Mexique. Un peu plus tôt dans la soirée a eu lieu l'accueil des participantes au Segundo Encuentro Nacional de Mujeres del Congreso Nacional Indígena. Plus de 600 femmes, cis et trans, venues de tout le Mexique, de plusieurs pays d'Amérique latine et centrale, des États-Unis et d'Europe, ont répondu à l'appel des femmes du Congrès national indigène pour cette deuxième rencontre nationale de femmes des 26, 27 et 28 juillet 2019. Le village de population Nahua, situé au bord de l'océan Atlantique dans la région de Veracruz, a été entièrement mobilisé pour cet événement. Le temps d'un week-end, plusieurs familles ont offert le gîte à des participantes, la place centrale s'est faite lieu d'assemblée générale, la cour de l'école est devenue un camping, l'église et les salles de classe ont abrité les travaux de groupe et de nombreux ateliers. Le Congrès national indigène est né en octobre 1996 à l'initiative des Zapatistes. Les Zapatistes ont obtenu l'autonomie de territoires situés au sud du Chiapas suite à leur soulèvement armé en janvier 1994. Aujourd'hui encore, ils et elles vivent de manière autonome de l'État capitaliste mexicain, avec leur propre système politique, économique, éducatif et de santé,
fondée sur des principes de démocratie directe et de solidarité. Après leur soulèvement armé et le début du processus d'autonomie, les apatistes ont lancé un appel à la mobilisation, cette fois pacifiste, des peuples indigènes de tout le Mexique. C'est comme ça qu'est né le Congrès national indigène en 1996, qui est encore aujourd'hui un réseau de solidarité entre de nombreuses luttes indigènes menées dans tout le pays.
Sont présents aujourd'hui des camarades venus de 21 États du Mexique. Et on dénombre des camarades de 12 autres pays. Jusqu'à présent, sont inscrites 9 conseillères, 29 délégués, 102 membres du CNI et 478 camarades d'autres collectifs et organisations.
Les questions de l'égalité homme-femme et des droits des femmes sont dès le début un sujet important pour l'armée zapatiste de libération nationale, le ZLN, qui comptait plusieurs femmes parmi ses leaders. La commandante Ramona et la commandante Susana ont ainsi parcouru les communautés zapatistes pendant 4 mois pour l'élaboration de la loi révolutionnaire des femmes de l'EZLN, proclamée dès le soulèvement du 1er janvier 1994. En avril 2018, les femmes zapatistes ont organisé la première rencontre internationale de femmes qui luttent, El Primero Encuentro Internacional de Mujeres que Luchan, qui a rassemblé environ 8000 femmes au Chiapas. Les femmes du CNI ont alors décidé d'organiser une première rencontre nationale de femmes sur des bases similaires en juillet 2018, puis une deuxième en juillet 2019.
L'année dernière, pendant notre première rencontre, nous nous sommes déclarées femmes en lutte contre le patriarcat, le capitalisme néolibéral et le néocolonialisme, avec la conviction que si nous, les femmes, ne nous libérons pas de la servitude, la société ne sera jamais libre. Aujourd'hui, nous nous proposons d'approfondir les réflexions de l'année passée, de partager nos expériences et de conclure des accords pour arriver à des pratiques concrètes qui nous permettent d'avancer vers les nouveaux mondes que nous sommes déjà en train de construire. Nous suivons l'exemple de nos camarades kurdes et de nos sœurs zapatistes avec lesquelles nous étions l'année passée et qui nous ont partagé leur petite lumière. Nous continuons le chemin initié par le Conseil national indigène, gouvernement dans lequel la participation des femmes est fondamentale. Exerçons notre liberté dans nos corps, nos esprits et nos cœurs. Faisons-nous les tisseuses d'un monde sans relation de domination, un monde dans lequel la sororité et la collectivité font partie du quotidien. Reconnaissons en nous-mêmes les relations de pouvoir patriarcal et continuons de travailler avec nos camarades hommes dans cette lutte pour la vie, car cette lutte est aussi celle contre le capitalisme et le patriarcat. Violence de cette politique de terreur contre les peuples, en tant que femmes du Conseil national indigène, nous continuons à lutter, nous continuons à nous organiser et à travailler, mais aussi à construire. Et nous nous demandons, comment pouvons-nous répondre à la violence avec une vision antipatriarcale et anticapitaliste, en construisant la vie face à tant de morts ? Comment construisons-nous à partir de nos réalités et de nos outils une toile commune qui nous permette de renforcer l'organisation entre nous, nos peuples, nos collectifs, nos quartiers, nos organisations? Dans cette perspective, nous sommes réunis ces quelques jours pour nous rencontrer et vous inviter à répondre avec nous à ces questions, puisqu'en tant que femmes, nous sommes au cœur de nos luttes et nous les alimentons avec force et dignité, révolte et espoir.
Voilà pour cet extrait de reportage que vous n'avez pas écouté dans son intégralité. Et pour rappel, vous pouvez les retrouver sur le blog de l'émission Langue de Fronde, qui est une émission de Fréquence Paris Pluriel. Et il y aura un lien sur le blog du Canu Info.
Et tout de suite, on va passer à l'agenda de la semaine pour clore cette émission.
Voilà, demain, plusieurs rendez-vous. À 11h30, il y a la manif intersyndicale qui part de la place Jean Massé. À 15h, il y aura l'Assemblée de l'éducation à la Bourse du Travail. Et à 19h, à la Bourse du Travail toujours, réunion publique du collectif Hébergement en danger. Collectif qui lutte entre autres contre la suppression de 2000 places d'hébergement dans le Rhône, alors qu'il y a aujourd'hui 7000 personnes à la rue.
Et mercredi, à partir de 18h à l'ENS de Bourg, il y aura une réunion pour parler de la situation au Kurdistan avec les membres de la Maison de la Mésopotamie et l'association Itinérance. Puis, au même moment, il y aura à 18h aussi donc un rassemblement de soutien pour les enfants sans toit du Tonkin, près du collège du Tonkin à Villeurbanne. Et à 19h, il y aura la présentation de la brochure du groupe soins au bar L'Amical.
Et puis on passe à samedi où à 14h il y aura la journée de lancement de la caisse de solidarité trans-inter pour le soutien financier des personnes transsexuelles ou intersexes qui ont besoin d'actes médicaux. Ce sera une après-midi vide dressing, jeux et pâtisseries, puis une soirée bar et repas vegan.
Et puis pour finir, dimanche, donc comme on vous disait juste avant, à partir de 11h, c'est l'inauguration de l'espace communal de la Guillotière. Donc on vous y invite nombreux. C'est au 45 rue Béchevelin à la Guillotière.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Pour nous. On était en effectif réduit, grève oblige, et puisque la grève, c'est pas être feignant, il y avait plusieurs de nos membres de l'émission qui étaient à l'AG, qui avait lieu ce soir en ce moment à la Bourse du Travail. Vous pouvez encore vous y rendre, si vous le voulez. Et puis, on va vous laisser à la semaine prochaine, et à 20h, vous retrouverez Blasphème FM.
Même se revendiquent antisexistes, mais n'ont rien changé à leur façon de penser. Ils continuent d'écraser les minorités en prônant l'égalité, empêchent les mécontents de parler, de peur de perdre leur position qu'ils se cachent bien d'accepter, mais ne font surtout rien pour la refuser. Courbette par devant, coup de dent par derrière, je désespère de les voir changer, les voir penser qu'il n'y a pas de lutte possible si on laisse pas tomber nos privilèges.
Alors pour les féministes, y'a pas de repos, faut répondre à tous les coups dans le dos. Pas tant de respirer, espoir ruiné, de penser que le message est passé, c'est trop beau pour être vrai. Se rendre compte que tout ça c'est du pipeau et que personne n'a pigé et que tout le monde s'en pipé, fin de comprendre, sans désapprendre. Et au final se comporte
en bon petit soldat du patriarcat. On rendra chaque coup avec attention, on laissera pas casser nos revendications. Plus de gaffe baissée, plus de mots pour excuser, y'a que le combat. En réponse au coup bas, on lâchera rien, on prévient. Au quotidien, difficile d'y reconnaître, ils agissent en bon prophème, ces traîtres. Mais ils commettent des erreurs de temps en temps, des lapsus, des phrases, des comportements qui te montrent qu'ils sont vraiment ce genre de mecs totalement déconstruits qui font la bouffe, la vaisselle et compagnie. Mais quand il s'agit de bricoler, ils t'enlèvent les outils des mains parce qu'il paraît, ils en sont persuadés qu'une bite vaut mieux qu'un vagin. Sans commentaire sur leur vision binaire, ces personnes pullulent dans notre milieu libertaire. Et ils sont nos potes, nos amants, nos frères. Alors pas facile de les faire taire. Chaque coup avec attention, on laissera pas casser nos revendications. Plus de garde baissée, plus de mots pour excuser, y'a que le combat. En réponse au coup bas, on lâchera rien, on prévient.
j'ai la beuge. Quand je vois des amis après quelques verres enquillés se comporter en pourriture finie. Le politiquement correct s'envole, les masques tombent dilués par l'alcool. Les biotiques réapparaissent plus vite dans les vapeurs éthyliques. Et l'accro révèle les ennemis, mieux que le marc de café quand on lit. Et le relou ressurgit, il est toujours vivant. Il ne s'est pas assagi,
il est bien présent.
Demain c'est sûr il reviendra et on l'attend.
On rendra chaque coup avec attention. On laissera pas casser nos revendications. Plus de gardes baissées, plus de mots pour excuser, y'a que le combat. En réponse au coup bas, on lâchera rien, on prévient. En cas d'agression, pas de doute, ils sont là à soutenir le pote, le frère ou juste le mec qu'ils connaissent pas. Parce qu'il ne fait aucun doute que les meufs ça exagère, ça parle de viol pour faire réagir. Alors qu'en réalité c'est juste des histoires futiles pleines de banalités. C'était pas un viol, y'a pas eu de pénétration. Oh, elle l'a cherché aussi, elle l'a allumé.
Ça me coûte trop la haine pour pleurer sur ce genre de réflexion à gerber. L'ennemi étant chacun de tapis à l'intérieur, attendant son heure
pour revenir,
attendant une erreur
pour ressurgir.
On rendra chaque coup avec attention, on laissera pas casser nos revendications. Plus de gardes baissées, plus de mots pour excuser, y'a que le combat. En réponse au coup bas, on lâchera rien, on prévient.
À quand la fin de toute forme de distinction sociale, à quand la fin de toute forme de ségrégation raciale, à quand la fin de toute forme de discrimination femme. C'est pour Nana Beur, acteur, chaîne de garde, la cité Mofia, MLM, pour une nouvelle ère.
Oye, oye, peuple femme, bravo aux armes, tapez du poing sur la table.
Après le mouvement de libération des femmes, PNL, MLF 2000 en force unie pour un nouveau combat, un nouveau discours, un nouveau débat. Comme des forcenés, ras-le-bol, on force les portes, on est prêt à négocier la parité à tous les niveaux, dans toutes les classes sociales, la mixité, l'égalité des salaires. Les lois changent, mais les mentalités stagnent. Convaincus, je revendique des principes ou des ratères, ou des histoires de cul. Fini les années 75, les manifestations portées par des intellos. Un coup de chapeau, merci encore pour ces guerrières de France. Mais c'est pas fini pour ces filles 20 ans, jeunes et jolies, issues d'immigration et des quartiers populaires. Pour elles, je continue, je m'avance avec celles qui veulent. Je me bats pour une nouvelle ère. Me fier, tout unir pour le même combat.
Oye, oye, peuple femme, à vos armes, tapez du poing sur la table. Il est temps de changer pour une nouvelle ère. Oye, oye, peuple femme, à vos armes, levez le poing en l'air. Il est temps de changer pour une nouvelle ère. Oye, oye, peuple femme, à vos armes, levez le poing en l'air et séchez vos larmes.
MLF, nouvelle ère.
Armée qui serait une loi virulente, taille plus apaisée posée. Qui cherche l'harmonie et l'équilibre entre l'homme et la femme. Tu vois toi, tu trouves ça normal que chaque année 60 à 200 femmes meurent de violence conjugale. Et dis-moi toi, comment tu réagis si je te dis que les Afghanes sont privés de tous les droits et risquent le fouet si elles n'obéissent pas à leur mari. Et en effet, les chiffres prouvent, les faits sont réels. Et si on dit rien, on fait rien, on assiste à une merde universelle. Je veux pas être complice d'homicide, d'hécatombe de supplice envers les femmes, au nom des miennes, au nom de celles qui souffrent en silence. Me fier, pas en avant, vers une nouvelle ère.
Mais lève une nouvelle ère, me fier, prends la relève. De nos jours, les droits de la femme sont bafoués. Encore des femmes excisées, exilées pour des mariages forcés. Dans certaines familles d'Afrique, on voit aussi des femmes abusées, violées, assassinées partout dans le monde. Les droits de la femme au Pakistan sont inexistants. C'est consternant de voir ces femmes se faire répudier pour le simple fait d'avoir mis au monde une petite fille fidèle à la tradition.
Oye, oye, peuple femme, à vos armes, tapez du poing sur la table. Il est temps de changer pour une nouvelle ère. Oye, oye.
C'était Nouvelle ère de Princesse Agnès
avant c'était viscéralement les mecs du milieu. Et ah merde, c'était viscéralement des vieux. Ah, c'est mal.
Vas-y, continue, c'est pas grave.
Ah, et j'aime tellement mon lit de Harold. On peut pas la...
Pas un astre, pas un ami, la place est déserte et perdue. S'il faisait sec, j'aurais dormi, il pleut de la neige fondue. Ah, oh, mais ça ne finira donc jamais, ça ne finira donc jamais. Est-ce la fin, mon vieux pavé? Tu vois, ni gîte, ni pitance. À la poche au fiel à corvée, je voudrais vomir l'existence. Ah, mais ça ne finira donc jamais, ça ne finira donc jamais. Je fus bon ouvrier tailleur, vieux que suis-je, une loque immonde. C'est l'histoire du travailleur depuis que notre monde est monde. Ah, mais ça ne finira donc jamais, ça ne finira donc jamais. Maigre salaire et nul repos, il faut qu'on s'y fasse ou qu'on crève. Bonnet carré et chasse-faux ne se mettent jamais en grève. Ah, oh, mais ça ne finira donc jamais, ça ne finira donc
I'm not going to do that.